Eh bien, merci José. Et la parole est à Jean-Jacques.
Voilà. Alors, j'avais mis en exergue, enfin, l'histoire est celle du récit tel qu'il s'ordonne pour un sujet, selon ce qui lui en a été transmis. La mémoire n'est pas nécessairement ce qui s'est passé, mais bien souvent ce qui s'en est dit par la suite. Bon, il y a des choses qui se répètent. Le psychanalyste doit se préoccuper du vrai du récit et non de ce qui s'est passé dans une réalité vraie dont on a perdu la trace. Quelques exemples viendront, etc. Bon. Alors, j'ai choisi comme premier exemple de ce qui se raconte de l'histoire et de la place qu'occupe à la fois le souvenir propre à chacun et ce qui se mêle du récit qui en est fait. Évidemment, nos préoccupations de l'année sur la phobie. Je veux dire ce qui fait mon récit à moi en relation avec la question. Hein, c'est ça qui construit l'histoire. Donc, ça m'a conduit à évoquer d'abord Hans avec le récit qu'en fait Lacan, après Freud, bien sûr. Alors, très curieusement, la façon dont Lacan commence à parler du petit Hans, hein, donc dans son séminaire de la relation d'objet, page 229 dans la transcription dont on dispose, il aborde le cas comme sur le ton de l'évidence, comme si on avait tout compris du texte de Freud, et en même temps il avertit, c'est une façon de, à la fois de, disons, d'intéresser ses auditeurs à lire Freud, lire Freud ce qu'il semble avoir du mal à obtenir. Bon. Alors, donc, il commence par une affirmation, l'effet de l'intervention de Freud, précisément dans la construction du récit de Hans. Alors, à l'étape de départ, nous voyons, à l'étape de départ, nous voyons le petit Hans développer à plein tuyau toutes sortes d'imaginations extraordinairement romancées concernant ses relations avec tous ceux qu'il adopte comme ses enfants. C'est un thème de l'imaginaire où il se démontre d'une grande aisance. Le jeu de l'heure avec la mère, et s'il s'y sent tout à fait à l'aise, c'est qu'il s'y inscrit lui-même dans une position qui mêle à l'identification à la mère, puisqu'il s'agit de l'adoption d'enfants, toutes les formes de la relation amoureuse qu'il poursuit aussi avec une très grande aisance sur le plan de la fiction. Bon, ça c'est... Et il ajoute l'autre versant... Cet épisode fait contraste avec ce qui se passe après les interventions du père. Sous la pression de l'interrogation analytique, plus ou moins dirigée, du père auprès de lui, il se livre à une sorte de roman fantastique où il reconstruit la présence de sa petite sœur, bien des années avant sa naissance, dans une caisse, dans la voiture, sur les chevaux. Bref, la cohérence se marque massivement entre ce que j'appellerais l'orgie imaginaire au cours de l'analyse et l'intervention du père réel. Alors, bon, on aura noté deux directions, n'est-ce pas ? Celle de l'identification à la mère, que Lacan reprend, d'un côté, avec les enfants imaginaires et... les amours de Hans, donc d'un côté, c'est celle où il fabrique des enfants à la pelle, et cette construction de la place de la sœur, où il invente non pas un devenir, mais une histoire. C'est-à-dire que je fais remarquer que l'orgie imaginaire consiste d'un côté à fabriquer des enfants, et de l'autre côté, à construire, à inventer une histoire qui est l'histoire de la naissance de sa sœur. Bien. On peut dire que l'imaginaire y a trouvé une assise, et dès lors, il est d'une autre nature, disons que c'est un imaginaire arrimé. Et j'y vois une preuve dans l'oubli de Hans. Parce que Hans, il a complètement oublié la fameuse orgie imaginaire dont il est question. Quand on lui repose la question plus tard, vous avez ça dans le texte de Freud. La seule chose dont il se remémore est dans l'autre champ. C'est celui de la transmission paternelle, puisque c'est la jalousie envers la sœur. C'est la seule chose dont il se souvient. Hein, vous, voilà, quand il revient après. Bon, je laisse de côté la question de savoir jusqu'à quel point l'opération freudienne réussit. Et je me permets d'insister sur ce coup de force de Lacan. Au début, enfin, quand il commence à parler du cas de Hans, qui est le dernier dont il a à parler, puisqu'il a fait séminaire sur les autres cas avant, hein, l'année d'avant sur la psychose Schreber, et on sait qu'avant il a parlé de l'homme au loup et de l'homme au rat et de Dora. Bien. Donc, d'ailleurs, il le précise là, à ce moment-là. Donc ça, bien sûr, ça vise à éveiller son auditoire. Il y a toujours un effet qui vise à intéresser son public pour qu'il lise ou relise le texte de Freud. Mais aussi, ce qui est remarquable, c'est qu'il répartit d'emblée les éléments entre un imaginaire débridé et un imaginaire soumis à l'ordre symbolique, lequel immédiatement impose de revisiter l'histoire, de sorte que la première chose qu'il s'agit de faire valoir est que la parole de Freud n'est pas sans effet. Et ensuite, il entre dans le détail. Examinons la chose un petit peu. Il y a ce que Hans dit, le récit du cas, tel qu'il est relaté par le père à Freud. Puis, le commentaire de Freud, il est soigneusement distingué du cas lui-même, dans le texte sur Hans, puisqu'il y a d'abord l'histoire du cas, il y a d'abord, il y a trois parties, il y a d'abord le petit Hans avant sa phobie, n'est-ce pas ? Ensuite, vous avez histoire de la maladie, et ensuite, vous avez commentaire. Je crois que c'est assez facile à vérifier. Bien. Alors, le commentaire de Freud, qui est soigneusement distingué du cas lui-même, et enfin, la reprise par Lacan, sans compter ce que je reprends moi ici à mon tour, à la suite de tous ces récits. Chacun de ces récits suit une visée qui lui est propre. C'est ainsi que Hans interroge celui qui est supposé savoir ce qu'il en est de ce qu'il appelle sa bêtise, c'est comme ça qu'il qualifie sa phobie, n'est-ce pas ? Et il reçoit de Freud une réponse qui vise à le guérir de son trouble. Récit que Freud commente, avec cette fois une visée qu'il nous donne très clairement en trois points, qui n'est pas la même, qui s'en distingue. Un, sa thèse principale, je dirais, démontrer chez l'enfant la validité de ses thèses sur la sexualité infantile. Là aussi, c'est explicite, c'est pas une... C'est comme ça que Freud le présente. Ensuite, il y a comprendre les phobies. Et puis, sans doute, le point qui nous paraît à nous le plus discutable, quoique il y ait lieu d'y revenir sans doute, c'est fournir des clés pour l'éducation des enfants. Alors, ce point est sans doute peut paraître en tout cas sans intérêt. Il convient d'ailleurs de le rapporter au moment où il le produit, néanmoins. Bien, la visée de Lacan, qui prend en compte plutôt le texte du cas que son commentaire, est tout autre. Il s'agit d'assurer d'abord, grâce au cheval tant redouté par Hans, le gain qu'assure à l'inconscient freudien sa description en termes de signifiant. C'est-à-dire, il s'agit de dire qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce que moi, Lacan, je gagne à utiliser ma théorie du signifiant, logique du signifiant. Évidemment, la phobie s'y prête tout spécialement. On sait que le tigre ne se comprend pas autrement dans une grande ville où il ne circule que fort rarement. Et Lacan insiste sur le fait que c'est essentiellement des images. Il faisait remarquer que finalement, les enfants, ils préfèrent les dessins animés aux films très souvent. C'est frappant. Bon. Bien. Donc, le dessin animé est spécialement articulé autour du signifiant. Je veux dire, la problématique du signifiant est expressive. Voilà. Alors, donc ça, le signifiant, et construire ou contribuer à la mise en place de la métaphore paternelle qui est son objectif du moment à la suite de la métaphore délirante dans le séminaire précédent. Bien. Alors, chaque fois, il y a interprétation. Cette interprétation se fait dans un quart de tour d'un discours sur un autre. C'est le principe qu'énonce Lacan dans l'envers de la psychanalyse. Remarquons qu'ici, le discours analytique, proprement dit, ne vaut que lorsque Freud interprète le questionnement de Hans, lequel, Hans, comme tout questionnement, relève du discours de l'hystérique. C'est comme ça qu'est défini le rapport à la question. Le fait de la question relève du discours hystérique. Bien. Et puis ça tourne. Ensuite, il y a le commentaire de Freud. On peut dire qu'il interprète le récit auquel il a participé lui-même au nom de l'inconscient. Il se trouve que c'est aussi le discours du maître. Pas tout à fait par hasard, et très précisément, on peut penser, je pense, c'est une liberté que je prends, que c'est au Freud du cas Hans que l'on doit cette coalescence chez Lacan du discours de l'inconscient et du discours du maître, qui a d'ailleurs d'autres justifications, bien entendu. Mais donc ici, le maître. Le maître... Donc, l'inconscient que Freud instaure comme le maître. Lacan précise que la parole de Freud est celle du maître absolu lorsqu'il énonce ce que vous connaissez bien. Bien avant que tu sois né, j'avais prévu qu'un jour, un petit garçon aimerait trop sa mère et à cause de cela, entrerait dans des difficultés avec son père. À quoi il ajoute, Lacan, entendez bien que j'ai dit qu'à cette occasion, la position prise par l'articulation symbolique, le père symbolique, qui lui aussi reste voilé, est celle de se poser ici de la part de Freud comme le maître absolu, comme quelque chose qui est non pas le père symbolique, mais le père imaginaire dans l'occasion. Je ne m'étends pas parce qu'effectivement, les termes sont encore assez fluctuants ici dans le texte de Lacan. Donc Lacan ici adopte pour le moment le discours universitaire. Je vais vous montrer que ça tourne comme ça. À considérer ce savoir inconscient comme dès lors constitué, comme acquis grâce à Freud. Ce qui constitue aussi un quart de tour, une interprétation. Bien évidemment, il y a toujours aussi chez Lacan une invention qui coexistent et qui renouvellent le récit précédent. Bien. Ces récits déterminent chaque fois une position, installent un sujet qui prend corps de ce récit même. Et ce n'est sans doute pas tout à fait par hasard que cet exemple de Hans, au-delà de notre programme des collèges sur la phobie, me soit venu à l'esprit. En effet, la mise en place du signifiant se double d'une référence précise à la structure selon Lévi-Strauss, qui a été évoquée tout à l'heure, structure qui, je le rappelle, constitue le point de départ de Lacan. La structure est envisagée à partir du mythe, dont Lacan fait le propre d'un individu, Hans. Donc, autrement dit, il le traite ici comme l'exemple paradigmatique du mythe individuel qu'on a évoqué précédemment. En somme, ici, il s'agit du mythe individuel de Hans comme modèle de ce qui fait la structure et de l'adaptation à la psychanalyse, en somme, de la thèse de Lévi-Strauss. Alors, on sait que dès ce moment, il articule que la vérité a structure de fiction. Ça vient de plus loin, mais je reste là. Et la fiction que chacun forge vaut autant que le mythe d'un groupe. C'est une histoire qu'on se raconte, et elle est vraie du seul fait que c'est cette histoire-là qu'on se raconte. Elle a une fonction, et on peut dire que le mythe qui la sous-tend, cette histoire propre à chacun, mais que chacun a en propre, est pour Freud rassemblée sous la bannière du mythe édipien. Cette fois, le mythe, la fiction, est celle de Freud, son mythe à lui. Lacan le dit, et cède de ce qu'il qualifie du dernier mythe à avoir été produit dans le monde, celui du père de la horde primitive, Totem et Tabou. Bien. On a moins de mal à saisir que celui-là soit un mythe. Mais je fais remarquer que qualifier l'Édipe de mythe reste plus délicat. Et ce, d'autant plus que sans cette fiction édipienne propre à Freud, et dont Lacan, d'autant plus que sans cette fiction produite par Freud, pas de psychanalyse. Donc c'est une fiction qui sous-tend la psychanalyse. De fait, nous sommes soumis à cette fiction propre à Freud et dont Lacan nous éclaire les ressorts structuraux, disons les invariants du mythe, au sens de Lévi-Strauss, qui ont pour nom castration, phallus ou encore pas de rapport sexuel. Donc ce sont les invariants. Bon. Alors ce parcours peut paraître tortueux, mais il conditionne une question simple. Que faire de cette fiction? Comment s'en débarrasser comme Hans de sa bêtise? En lui faisant part de la réalité, de la vérité historique, mais laquelle? Alors là, il y a tout de suite un enjeu, n'est-ce pas? Est-ce que c'est l'absence de pénis de la mère ou bien la sœur qui n'aurait pas été apportée par la cigogne, mais pour laquelle le père aurait quelques responsabilités, il paraît. Alors, les deux, sans doute. Mais le choix de Lacan est très clair. Il fait le choix avec Freud du symbolique, c'est-à-dire qu'il choisit la cigogne. Ça a l'air de rien, mais je crois que c'est un point important. Parce qu'il s'agit de transmission, c'est-à-dire de la fonction du père. On rappelle que c'est l'époque où s'élabore la construction des schémas I et R qu'il fabriquera l'année suivante. Je vais juste rappeler le schéma R que vous avez bien entendu tous en tête. Mais c'est juste pour... Voilà. Bon, alors ici on met R, ici on met I et ici on met S. Voilà, on met le père là. Voilà. Alors, Donc, le triangle symbolique d'un côté, c'est juste pour que vous l'ayez... Le triangle symbolique d'un côté qui commande à l'ensemble de la fiction qui se trouve de l'autre côté. C'est là où on trouve le récit, de l'autre côté. Donc la fiction qui est répartie entre imaginaire et réalité. Effectivement, c'est souvent la question qu'on se pose, n'est-ce pas? Justement, ici, la réponse de Lacan n'est pas exactement celle de Freud. Mais bon. Alors, je vais prendre d'autres exemples parmi les plus courants, de façon à un petit peu éclairer, si c'est possible, la question. Lorsqu'il est question d'abus sexuels dans l'enfance, les versions sont éminemment variées. Jusqu'à celle que j'ai entendue récemment, je dois dire avec l'ombre d'un sourire, le souvenir du regret d'une jeune fille que le père, dormant dans son lit, ne se soit pas plus intéressé à elle. Ça, c'est une version amusante de la chose. Bon. Alors, où trouve-t-on l'Œdipe ? De façon très surprenante, et pourtant sans doute est-ce, après un viol, la version traumatique la plus habituelle. Vous connaissez ça, la mère qui refuse de croire à ce viol, surtout lorsqu'il a lieu dans l'environnement familial, créant alors le vrai traumatisme déstabilisant, c'est-à-dire le traumatisme... Bon. La fiction d'une mère bonne disparaît et laisse apparaître la femme en tant que rivale. En somme, l'Œdipe est ici manifesté sur une voie de retour à partir d'une manifestation hostile de la mère. Celle-ci dévoile la fiction qui soutenait la jeune fille jusque-là et l'histoire du viol passe au second plan. Le traumatisme se fait sexuel curieusement dans ce second temps, dans la mesure où se déchiffre le sens sexuel dans l'inconscient, c'est-à-dire dans une histoire qui implique la position de chacun de ceux qui ont présidé à sa naissance, comme on l'a rappelé et indiqué tout à l'heure. Le traumatisme à la fois sexuel et historique met donc en danger la fiction établie. Qu'à cela ne tienne, une autre fiction va aussitôt la remplacer, laquelle inclut le symptôme. Je voulais évoquer au départ autre chose. Lorsqu'on raconte son histoire, c'est vrai, il y a les souvenirs et puis il y a ce qu'on vous a raconté. Et le souvenir est alors celui de ce qu'on vous a raconté, que bébé vous étiez malade ou que vous aviez refusé le sein ou le contraire, etc. Tout ça se mélange allègrement au point qu'on puisse se souvenir, non du récit, mais honnêtement de quelque chose qu'on vous a raconté. Hein ? Non plus comme si c'était un récit, mais comme un vrai souvenir. Le phénomène est assez fréquent. Et d'ailleurs, c'est vrai puisqu'on vous l'a dit. La mémoire est une drôle de machine dont Freud a exploré la logique avec une grande perspicacité. La question est celle de savoir comment revisiter le récit modifie la position subjective et d'ailleurs aussi modifie le récit. Lacan indique bien qu'il y a lieu d'indiquer au patient au début en quoi il participe du récit qu'il anime. Hein ? Vous savez, c'est la première forme d'interprétation qu'il donne. Et notons qu'avec cette interprétation, l'analyste se fait l'adresse, c'est-à-dire s'inclut lui-même dans le récit. Mais il s'agit là d'un point d'entrée. Qu'en est-il de la suite ? C'est sans doute ce qui impose à Lacan toute une série de remaniements théoriques, de précisions pour mieux en rendre compte. Les mots qu'il utilisera supposent que la fiction ne soit pas seulement maintenue identique à elle-même, au prix de transformation conforme à la structure des mythes, mais implique aussi un changement radical. Il faut bien que la séquence édipienne, avec la disparition du complexe selon Freud, tranche quelque chose. D'où les termes qui marquent successivement cette rupture chez Lacan, franchissement, coupure, changement de discours. Que devient alors le récit, l'histoire, avec ou sans Y ? Il devient autre, assurément, mais seulement lorsque le franchissement s'est produit. Ou peut-être pas. Or, quand on lit Lacan, on s'aperçoit que ce franchissement est toujours défaillant, inaccompli, labile, etc. D'où la très grande prudence affichée sur le devenir de l'histoire qu'on se raconte. Voyez là encore Hans et ce qui lui arrive par la suite. Selon ce qu'en lit Lacan, la fiction qui l'assaille, avant même sa phobie, persiste au point, plus tard, de perturber sa vie d'homme. C'est ce qui est dit. C'est-à-dire qu'en somme, il y a bien eu la réduction de la phobie, mais pour ce qui est de la fiction, il y a un échec. Ainsi, ce que devient l'histoire ma foi, j'attends beaucoup de ceux qui me suivront cette année pour l'éclairer, pour éclairer cette question délicate. Voilà, je vous remercie.
Bon. Alors, donc José nous a conduits tous donc par des tours et des détours au travers des lectures que t'as suggéré le thème. Donc ça fait des cheminements. Qui ont rapporté beaucoup de documents, beaucoup de matériel, beaucoup de questions. Hein. Donc ça, c'était plutôt bien. Et donc, comme je ne pourrais pas reprendre l'ensemble des choses que tu as abordées, je te demanderais de volontiers de revenir sur un point, puisque tu pars de cette hypothèse, tu poses comme ça... l'histoire de structure, hein, le recouvrement de pas de rapport sexuel, hein, par l'histoire. Et donc, tu dis, et ça peut-être que tu peux l'expliquer un petit peu plus, en tout cas, les histoires avec un S qui lie les symptômes. Et ensuite, l'histoire sans S qui représenterait le symptôme de faim auquel on s'identifie, etc. Donc, moi, la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu peux nous expliquer, enfin, ou peut-être développer ce que c'est, enfin, comment c'est les histoires qui lient les symptômes? Et est-ce que ce que tu décris là entre, enfin, des histoires à l'histoire, est-ce que c'est pour toi le parcours de l'analysant? Est-ce que c'est ça que tu as décrit? Et donc, si c'est ça, est-ce que, enfin voilà, comment tu articules ça avec la notion d'historisation avec le Y, c'est-à-dire au fond la narration sous transfert et basé sur la division subjective. Enfin voilà, j'aurais bien aimé que tu reprennes un peu ce point. Ensuite, peut-être plutôt un commentaire qu'une vraie question, c'est-à-dire que tu as repris pas mal ce que sont les reconstructions dans la névrose et dans la psychose. Tu as dit leurs différences, mais tu as beaucoup insisté aussi sur leur proximité. Et là, je te demande, enfin oui, je te pose la question de savoir si au fond, là, on ne traduit pas, pour une part, simplement le fait que l'imaginaire, peut-être, est ce qu'il y a de mieux partagé, et que au fond, ça nous montre aussi que quand on veut rendre compte de l'expérience, on ne peut pas se réduire à une de ces dimensions, hein, quelque chose comme ça. Et donc, pour le coup, si j'avais une question autour de la psychose, ce serait plutôt est-ce qu'on peut dire quelque chose de pas de préhistoire dans la psychose, puisque tu l'as repris à propos de la névrose. Alors, je sais pas. C'est comme vous voulez.
D'accord. On peut faire ça. Écoute, je suis d'accord pour pas de préhistoire dans la psychose, puisque je pense que c'est à inventer. Enfin, je crois. Enfin, c'est comme ça un peu que je fais avec les enfants avec lesquels je travaille. Je me laisse faire. Je vais dire plutôt comme ça. Et pour oui, je sais pas, quand j'ai travaillé, j'ai lu des textes et je me suis dit, mais au fond, nos symptômes, les symptômes, il y a les symptômes et puis il y a le symptôme de faim. Je me suis longtemps mêlé les pinceaux, mais il me semble que que ces symptômes qui se dénouent, qui s'en vont, qui nous font plus souffrir, eh bien, c'est des bouts d'histoire, hein, des histoires qu'on s'est racontées. Voilà, c'est les histoires qu'on s'est racontées. On s'est raconté que papa, maman, machin, le frère, la sœur, enfin bon, et puis petit à petit, ça se dénoue et ça nous fait plus mal. Mais du coup, l'histoire, il n'y a plus d'histoire en quelque sorte. Il y a quelque chose qui s'est pacifié, on va dire, qui se dénoue et qui fait que, bon, bah, il reste une épure, je pense, après quelque chose qui se réduit à peu de choses au fond. Enfin, quand on écoute. Voilà, c'était un peu. Au fond, on s'aperçoit dans la cure que tout ça, c'était un peu des fariboles qu'on s'était raconté, qui nous faisaient souffrir, certes, mais bon, c'était pas. Voilà, ça y met fin, en fait. Enfin, voilà, ça assèche quelque chose. Voilà, je ne peux pas trop en dire plus que ça. Voilà.
Donc Jean-Jacques nous a rappelé, enfin ce qui avait été dit aussi par José, à distinguer la vérité de l'exactitude, hein, quand même la mémoire, l'histoire, etc. Bon, et puis alors après, donc à propos du petit Hans, alors donc tu parles de l'orgie imaginaire, hein, et puis de l'imaginaire qui s'arrime, hein, et avec quoi ça fait histoire de Hans, ou histoire pour Hans plutôt. Alors avec ça, moi, ma question sera autour de comment articuler cette affaire de ce que donc tu appelles histoire, là, ce qu'on peut appeler histoire, avec le fantasme, et quelles sont les différences dans le fonctionnement, dans le lien à la fiction. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet aspect, si tu peux dire quelque chose. Et un autre point, ce serait... tu as pas mal insisté sur le récit, en disant donc que le récit donnait une position, que le récit partait d'une intention ou d'une visée, je ne sais plus comment tu l'as dit. Et donc, moi, j'aurais une question qui me semble reliée à ça, c'est au fond, comment ça fonctionne, ce passage de l'histoire qu'on se raconte ou qu'on raconte à un récit qui s'écrit. Ou est-ce que... Voilà, enfin... Non ?
Oui. Je ne discute pas, c'est assez... Alors, sur le rapport au... Alors, bon, bien sûr, cette élaboration de Lacan, notamment là à propos de Hans, va servir de, on va dire, de guide dans ce qu'il mettra au point ensuite sur le fantasme. Ça, c'est tout à fait clair que ici, on a. Déjà, c'est pour ça que c'est très intéressant, cette répartition que fait Lacan avant même d'examiner le cas, c'est-à-dire avant de rentrer dans le détail des différentes opérations successives. Bon. C'est-à-dire cette façon qu'il a, en quelque sorte, d'annoncer la couleur d'emblée. Et en effet, sur... sur la dimension proprement fantasmatique, on voit bien qu'elle y trouve, disons qu'elle y trouve sa source. Alors pour en suivre le progrès, évidemment, il faudrait rentrer dans le développement du texte ce que j'essaye de faire par ailleurs. Bon, mais parce que ça c'est pas donné. Il ne donne pas les clés. Il donne juste une formule avec une répartition. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était assez clair. Et d'ailleurs, on n'est pas sans constater au moins la ressemblance entre ces enfants imaginaires de Hans et disons la progéniture de Schreber, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en somme, ce qui fait l'homologie et ce qui fait la différence entre le schéma I et le schéma R, puisque ici, Hans est pris, disons, comme modèle du schéma R, n'est-ce pas? C'est-à-dire du névrosé. Et d'ailleurs, c'est ce qui sert. Alors, la chose intéressante, quand je dis le récit, chacun fait un récit, c'est ce qui est intéressant. Alors, j'insisterai pas trop sur l'écrit, parce que, d'abord, le séminaire de Lacan n'est pas un écrit, enfin, c'est tout à fait oral, et même si, qui implique une progression qui est celle de l'oral, comme tous ces séminaires, c'est pas fabriqué pareil que les écrits. Bon, ça c'est le premier point, et que dans ce récit que Lacan reprend, c'est tout à fait intéressant de voir quels sont les éléments que Freud privilégie et ceux que Lacan privilégie. C'est pas exactement les mêmes. Et à la sortie, on n'a pas exactement les mêmes, puisqu'on a une satisfaction de Freud qui ne colle pas tout à fait, il faut bien le dire, avec le courrier des parents de Hans qui est à la fin, hein, où on dit, bon, voilà, disons que la phobie, ça va mieux. Bon, mais pour le reste, Lacan ne fait pas du tout le même diagnostic que Freud. Il considère pas qu'il y ait eu le franchissement dont il parle, enfin. Quel que soit le terme qu'on utilise, Lacan utilise plusieurs pour parler de ce qui correspond au déclin de l'Œdipe chez Freud, et que donc il y a un raté. Le raté est... Alors on se dit, tiens, c'est Hans qui est le raté, après on se dit, tiens, c'est Léonard qui est le raté, après on se dit, tiens, c'est l'obsessionnel qui est le raté, après on se dit, tiens, c'est Dora qui est raté. Bon, bref, ils sont tous ratés. Donc, c'est toujours raté. Donc on se dit, il y a un os. Effectivement, le franchissement qui serait parfait de la métaphore paternelle, évidemment, n'existe pas, puisqu'il est lesté, alors ensuite ça se retourne, puisqu'il est lesté du symptôme. Le symptôme, peut-être, comme tu le... Voilà, celui qui... À quoi peut se réduire les constructions imaginaires. De toute façon, les constructions imaginaires, elles se réduisent. Mais Lacan insiste beaucoup là-dessus, toute la fin du séminaire là-dessus, hein, sur le fait que, bon, la chose se réduit, mais il reste le problème... disons, le problème d'être père, quoi, pour Hans, n'est-ce pas ? Une difficulté à être père, c'est-à-dire que dans la transmission telle que Lacan la décrit, il y a effectivement ce raté. C'est-à-dire, il y a le récit se réduit à sa structure, mais est-ce qu'il est modifié ? C'est ça le point. Est-ce que le franchissement implique une modification du récit ? Et ça, c'est une question que je laisse ouverte et j'espère que les autres exposés me permettront de, pourront y répondre.
Je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans la salle. Est-ce que... Non ? Alors, pas de questions pour le moment. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, non, non. Pas boire un coup, non, non. Quand même. Non, peut-être une remarque. C'est qu'au fond, je ne crois pas vous avoir entendu, ni l'un ni l'autre. Évoquer le terme d'après-coup. Si ? Ah bon. Non, mais parce que ça paraît évidemment quelque chose d'assez important pour pouvoir faire quelque chose qui s'appelle l'histoire pour un névrosé. Voilà. Mais donc tu l'as évoqué. Alors, quels sont... toi, tu veux dire...
Non, moi, je ne l'ai pas fait.
Oui.
Je n'ai pas... C'est-à-dire... C'est un après-coup par définition, mais puisque oui, chaque fois, le récit reprend...
Oui. Et donc, dans l'après-coup, tu vois, ça s'écrit au fur et à mesure que se déroule la
Alors, une petite curiosité pour ce que disait Jean-Jacques à propos du dessin animé et de la place du signifiant. Parce que moi, qui suis plus une enfant tout à fait, mais qui reste friande de dessins animés, je voudrais bien que tu m'en dises un peu plus.
Ben, je crois que justement, c'est Lacan l'explique bien quand il reprend le cas. Bon, il n'est pas question que de chevaux, vous savez, il est question aussi de girafes, etc. Enfin bref. Donc, je crois que ce qui est important de saisir, c'est que le signifiant ne se limite pas à l'homophonie. Je crois que c'est une erreur qu'on peut faire. Et quand il parle d'équivoque, on sait qu'il fait, il établit au moins trois ordres de phénomènes qui règlent la question de l'équivoque, disons. Il n'y a pas que l'équivoque signifiante. Alors, le fait de dessiner une image, précisément... on va dire, détache l'image de la chose. C'est-à-dire, c'est une représentation. Et justement, c'est ça qui est intéressant. C'est une représentation qui n'est possible qu'avec le langage. C'est-à-dire que c'est le langage qui détermine cette représentation imagée. L'image elle-même relève du signifiant et je dirais plus caricaturale d'ailleurs, c'est d'ailleurs ce dont il s'agit, plus caricaturale que la représentation même filmée, enfin, c'est-à-dire que l'image, c'est-à-dire peu réaliste finalement du dessin et par extension du dessin animé. L'avantage du dessin animé, c'est qu'il fait intervenir justement le temps logique qu'on a moins dans un dessin. Donc dans le dessin animé, il y a le temps logique, il y a le signifiant. Et le signifiant, d'abord, moi je cite toujours Tex Avery parce que c'est le plus commode. Quand il y a une porte, n'est-ce pas, il y a une porte qui est dessinée, on ouvre la porte. Mais quand c'est le méchant qui arrive devant la porte, il n'arrive pas à ouvrir la porte. La porte reste fermée. Bon, c'est-à-dire qu'il. Transperce la porte, mais voilà, bon, etc. C'est-à-dire que la porte fonctionne effectivement comme signifiante dans une chaîne qui, elle, relève du langage absolument. Donc c'est d'ailleurs ce qui est plaisant dans le dessin animé, et c'est ce que les enfants apprécient, parce que contrairement à ce qu'on imagine, leur repère est essentiellement signifiant, et que, en ce qui concerne l'image, Lacan le précise, en ce qui concerne la construction imaginaire, justement, chez l'enfant, il y a plutôt un déficit. C'est-à-dire qu'il faut le moi, justement, cet appareillage imaginaire, il faut le moi pour, en quelque sorte, déployer ça. Il faut le moi qui va construire, avec sa pelure d'oignon, comme c'est décrit au début, qui va construire un certain nombre d'éléments. Et justement, le signifiant fonctionne avec un déficit d'imaginaire chez l'enfant. Ce sont des choses un peu élémentaires, mais bon.
Vas-y.
Merci. Je voudrais poser une question qui a déjà été posée par tout à l'heure, en fait, hein, je sais, cette histoire sur la préhistoire. En fait, je voudrais revenir sur cette question, éventuellement, si Jean-Jacques Leroy, en fait, il pourrait dire un mot. Et ça serait intéressant, puisque il y a cette affirmation qu'en quoi, dans la psychose, il n'y a pas de préhistoire. Et disons, moi, ça m'interpelle, en fait. C'est-à-dire, dans quel sens il n'y a pas de préhistoire? Disons, ça dépend de ce qu'on entend par préhistoire, parce que dans mon expérience clinique, on peut voir des psychotiques qui sont très gourmands, même de rétablir, par exemple, des faits, des générations familiales, des choses comme ça. Donc, du coup, ça m'intéresse de voir, en fait, dans quel sens on dit qu'il n'y a pas de préhistoire.
Ma pensée était rétrécie à. Aux enfants que je suis à l'hôpital, qui sont petits, et pour lesquels, effectivement, il y a quelque chose à construire, me semble-t-il, de la préhistoire. J'aurais dû être plus précise. Il y a quelque chose dans la psychose, chez les petits, je crois, à essayer de mettre en place. Tu as tout à fait raison de m'interpeller là-dessus.
Ah bon, moi ? Quelle question ? Sur la préhistoire ? Ce qui existe dans la psychose, pour le coup, la thèse de départ de Lacan, c'est quand même que la préhistoire, enfin, l'histoire délirante, est fondée sur, en effet, là aussi, un défaut d'imaginaire. L'idée, c'est on fabrique un imaginaire nouveau à partir de des effets, disons, de P0, des effets de la forclusion du nom du père. Très bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, il y a une succession de remaniements de l'histoire qui s'effectue de façon rétrograde. C'est-à-dire notamment le déclenchement est daté à un certain moment, et puis en réalité on explique que avant il y avait ça, et que donc Et puis avant, il y avait ça. Et puis d'ailleurs, avant la naissance, il y avait ça, etc. Donc, il y a une construction imaginaire qui, elle, est rétrograde. Mais évidemment, c'est une fabrication qui ne va pas dans le sens exactement de ce qu'on entend par élucidation ou par recherche de l'histoire. C'est-à-dire, la question, c'est comment on répond à cette production délirante qui, elle, ne cesse d'accumuler des choses, c'est-à-dire d'en rajouter, avec une superposition délirante qui est très, très frappante et qui correspond, mettons, à chacun des moments féconds. Je rappelle que le terme de moment fécond est de Lacan. Donc, des moments féconds on peut refaire l'histoire des moments féconds. En se donnant un petit peu de peine.
Oui, alors, on est sur le terrain de la distinction entre le récit et l'histoire. Le récit, c'est pas complexe, c'est ce qui se raconte, donc ce qui s'articule. Et quand ça on articule, on imaginarise aussi. C'est solidaire, disons, je crois. Seulement, tout récit ne vise pas à raconter une séquence historique. Il y a des récits qui visent à raconter une séquence historique. J'emploie cette expression pour désigner une séquence historique d'un parlant ou d'une société. Puisqu'il y a l'histoire des sujets, il y a des parlants, et puis il y a l'histoire des sociétés. Alors le problème, c'est que on est sur le terrain du rapport entre le langage et le référent. Et que, au fond, le référent, il est toujours raté. Ça, c'est la thèse fondamentale de Lacan. C'est pour ça qu'il a abouti à des thèses si négatives sur l'histoire. L'histoire qui se raconte, que ce soit celle du sujet ou que ce soit celle de la société. Alors, dans la psychanalyse, peut-être aussi dans l'histoire plus générale des humains, mais je laisse ça de côté, c'est pour les historiens. Dans la psychanalyse, le postulat que nous avons, c'est que l'articulation du récit va modifier la séquence historique. Autrement dit, va toucher au référent. C'est un postulat. Alors, comment en rendre compte? Comment en rendre compte avec un récit, qu'il soit théorique ou qu'il soit personnel? Alors, par exemple, tu dis le franchissement, mais le franchissement, il est toujours déclaré. Déclaré. Et on est toujours avec la question, où est le réel? Je suis frappée que vous n'ayez pas employé ce terme. Du tout. C'est quand même le gros problème pour moi. Non, mais je ne dis pas que ce n'était pas latent dans ce que vous avez fait, mais bien sûr que c'est forcément latent, mais...
Je l'ai évité à cause du moment... La référence à la...
Parce que Lacan ne l'emploie pas à ce moment-là, effectivement, très peu, pas dans le même sens.
Oui. Pas du tout, par exemple, on parle du père réel pour parler du vrai père de Hans, etc. Oui. Donc, c'est un peu compliqué de placer le réel, c'est pour ça que...
Oui. Et donc, ça, par exemple, José, si vous dites le symptôme à la fin, c'est l'histoire qu'on s'est racontée. Je ne crois pas, hein. C'est ce qui reste de l'histoire qu'on s'est racontée quand elle s'est réduite, etc. C'est pas assuré, ça. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui reste? Si vous voulez, la question que je me posais, elle est très simple à propos de cette formule que vous avez employée. C'est que, je ne sais, quand Lacan dit le symptôme est réel et il vient du réel, ça, je peux le comprendre. Alors, je ne peux pas l'articuler avec la phrase « le symptôme, c'est ce qui reste de l'histoire qu'on s'est racontée ». Parce que l'histoire qu'on s'est racontée n'est pas réelle. L'histoire qu'on s'est racontée, elle est entre. Un récit, c'est forcément entre symbolique et imaginaire.
Mais de toute façon, ce qui reste, c'est cet os d'histoire. Enfin, une histoire qui reste, cet os qui reste, il est la marque de l'histoire laquelle, du sujet. Pas un mot qu'il emploie. C'est ce mot-là, ce nom-là qu'il a de symptômes. Il ne va pas me faire comprendre. Mais non, moi, si, moi j'avais l'impression de vous comprendre. Écoutez. Alors, comment dire ça? Prenons autrement, peut-être plus simplement. Est-ce qu'on a accès au réel des faits, ce que Lacan appelle le réel des faits? Ah ben, si on n'a pas accès au réel des faits... Bon, disons que c'est ça la question. C'est avec du récit. Et l'association libre, ça fabrique du récit, hein. Ça ne fait aucun doute. Est-ce que... José. Est-ce qu'avec du récit, on a accès à quelque chose qu'on peut appeler le réel du fait? C'est la question. Tu touchais ça aussi. Hein, et si on répond non, tout ce qu'on fait est fantasmagorie. Si on répond non, on n'a pas accès au réel du fait. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on raconte dans la psychanalyse et dans les passes, et tout, c'est toute la fantasmagorie. Donc, c'est ça la question que pose notre sujet de l'année. Historisé, dit Lacan, on a le postulat que l'historisation a de l'effet. Enfin, c'est notre postulat, parce que sinon, on se donne du mal pour rien. Bon, mais si ça a de l'effet, c'est... quel est notre accès au réel des faits? Lacan emploie l'expression, hein, dans télévision, le réel du fait. Il dit même que avec l'homme au loup, Freud a raté le cas et que ça lui est pas bien réussi à l'homme au loup, mais que ce ratage n'est rien auprès de la réussite de ce que fait Freud, qui est d'établir le réel du fait. Hein? Donc Lacan, il pense quand même que on peut établir, peut-être que la vie commence avec du réel du fait. Hein? Et que peut-être, hein? C'est ça la question en tout cas.